Je suis arrivé au jeu d'échecs par correspondance en 1970. Pour une raison précise, en fait, c'est parce que je partais au service militaire. Et qu'un an sans jouer, ça me paraissait fascinant. Et donc, je me suis dit, je pourrais peut-être jouer par correspondance. Mais aussi, je m'étais rendu compte que j'avais pas les capacités vraiment pour faire un très fort joueur à la pendule, quoi. J'étais un bon joueur, mais quand je pense que j'avais toujours des problèmes avec la pendule, je m'étais dit que bon, par contre, s'il n'y avait pas la pendule, ça serait intéressant de voir comment ça se passe. Et donc j'ai joué mes deux premières parties par correspondance pendant le service militaire, où je passais un peu pour un fou là-bas. Et voilà. Et ça a commencé comme ça. Et ça ne s'est jamais arrêté.
Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur, sur ça, sur le fait que vous receviez les coups, comment ça se passait, l'ouverture de courrier? C'est un peu bête de peut-être de poser cette
Ah,
question,
c'est
mais
pas bête
j'ai.
du tout, ça. C'est pas bête du tout comme question. Oui, si. Bon, c'est pas vraiment une ouverture de courrier, puisque c'était des cartes. Mais en fait, le facteur était un personnage central. Le facteur est pas passé, il est passé. Je vais voir ce qu'il y a, etc. Quoi. Tous les jours, on attend le facteur. Ça, c'est incroyable, mais c'est ouais, on vivait avec le facteur.
Quand j'étais en déplacement, je téléphonais à la maison et je demandais à la femme, est-ce qu'il y a telle lettre qui est arrivée, ouvre-la, dis-moi ce qu'il a joué. Et quand ce n'était pas ce que j'attendais, il y avait toujours un peu d'angoisse parce que je disais, est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est pas ce que je pensais. Il a peut-être fait une faute, mais il a peut-être trouvé quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Donc il y avait toujours cet intérêt et un peu cette attente de recevoir la lettre pour savoir effectivement quel coup a été joué par l'adversaire et voir si c'était ce que j'attendais ou pas.
Alors c'est très aléatoire parce qu'un jeu, vous avez trois cartes qui vous arrivent. Après, vous êtes 2 jours sans avoir rien, quoi. Il y a un suspense permanent, en fait. C'est assez curieux. Mais ouais, c'est assez vital, ça. Alors, vous voyez, ça, c'est les 4 cartons, là. C'est le courrier de ce qui reste de tous les tournois que j'ai pu jouer en postal.
Ok, donc vous avez gardé quand même une.
Regardez. Puis ça, c'est les carnets de partie. Terminés, en fait. C'est pas les parties en cours. Hein. La partie terminée, c'était mis au propre sur des carnets de partie, en fait. Hein.
Et pouvez-vous me dire pourquoi vous avez gardé tout ça?
Ça, c'est une sacrée question. Parce que. Déjà, je suis assez conservateur, mais en fait, c'est un souvenir, en fait. Le résiduel de tout ce qui était vécu, en fait. Il y a d'une part le résultat des tournois, et puis il y a les échanges. C'est ce qu'il en reste, en fait. Ah bah voilà. Donc, c'est ça que j'utilisais, en fait. Alors, il y a ce qu'on appelle une notation internationale, avec des chiffres. Ça permet d'éviter le problème des lettres parce qu'on n'a pas tous les mêmes lettres pour les mêmes pièces. Donc, par exemple, si je joue fou B2 G7, ça va donner 22,77, tout simplement. Il n'y a même pas besoin de nommer la pièce qui se déplace. Hein. Il suffit de nommer la case de départ et la case d'arrivée. C'est international et puis c'est compréhensible par tout le monde. C'est la carte de présentation, ça vous donne une idée de la présentation.
So, dear chess friend, welcome in the tournament. I'm 36 years old. I'm an owner of a firm, pharmaceutical. I'm playing since 1991. Okay, I wish you a good luck in the tournament.
Alors, j'ai pas joué parce que je garde généralement une ou deux joueurs, une carte par joueur,
Okay.
et généralement, c'est la carte la première. Et la dernière, en fait. Parce que dans la première, vous avez la présentation. Puis dans la dernière, il y a éventuellement quelques mots sur le résultat. Donc, là, il a simplement proposé nul. Vous voyez, il écrit ses couilles. Mais tu réponds oui, parce que ça s'arrêtait là.
Manipuler les pièces tout seul, ouais, je me rappelle de ça, ouvrir des livres, les fermer, aller chercher des enveloppes, écrire, des stylos, des gommes, coller des timbres. Je vous dis, aller à la poste, c'était important. Chercher des timbres postés, hein, envoyer des cartes au Mexique qui revenaient avec plein de tampons partout, correspondre avec un russe. La correspondance avec l'Union soviétique, à l'époque, c'était un coup par mois. Il ne fallait pas espérer plus. Donc, vous voyez, 12 coups par an, une partie faisant en moyenne aux alentours de 40 coups, ça fait 3 ans. Quoi. Incompressible. Donc, 3 ans, voilà. Mais bon, comme je disais souvent aux gens qui me regardaient comme ça, comme si j'étais un martien à pratiquer une activité pareille, je leur disais que de toute façon, on jouait plusieurs tournois en même temps. Donc, moi, j'avais en moyenne entre 40 et 50 parties en cours. Alors, évidemment, vous en avez dans l'ouverture, au stade de l'ouverture, un coup, deux coups, trois coups, mais vous en avez aussi dans des finales compliquées au-delà du 40e coup. Et donc, tout ça, ça s'analyse en même temps. Vous voyez ? Alors, il y a le courrier, il y a des cartes qui rentrent. On regarde, on note les coups, on réfléchit bien sûr et on prend des notes sur des cahiers à l'époque. Hein. Maintenant, l'ordinateur a simplifié tout ça, a réduit aussi pas mal le nombre d'erreurs qu'on pouvait commettre hein, en analysant une position qui n'était pas exacte, où il y avait un pion qui avait été avancé par hasard. C'est pour ça que moi j'utilisais des petits échiquiers. Vous savez, on faisait des petits échiquiers en plastique avec des pièces qui rentraient dans les cases, qui étaient percées comme ça. Et ces échiquiers avaient un couvercle. Alors, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait les superposer, coller des étiquettes avec le nom des adversaires. Et puis, quand on recevait un coup, on le jouait, mais on analysait à côté, sans jamais toucher cette boîte. Cette boîte, c'était vraiment le reflet de la partie, tel qu'il était au moment M, quoi. Où on recevait la réponse de l'adversaire. Puis quand on postait la carte, ou juste avant, on déplaçait donc la pièce qu'on avait jouée, et on refermait le couvercle. Et puis on passait à une autre, évidemment. Alors comme ça, il y en avait pas mal dans une pièce. Ça faisait une ambiance toute particulière. Vous savez, ces petites boîtes qui faisaient, je ne sais pas, 10 cm sur 15, ou je me trompe peut-être, je ne me souviens plus. Et puis il y avait un échiquier véritable, donc avec des pièces qui changeaient de place sans arrêt parce qu'on passait de l'une à l'autre. Moi, je me rappelle, quand je rentrais du travail, j'étais tout le temps en train d'ouvrir la boîte aux lettres parce qu'à l'époque, en plus, il y avait deux distributions par jour à Paris. Donc, je partais le matin, j'ouvrais la boîte aux lettres, je rentrais à midi, j'ouvrais la boîte aux lettres, je sors le soir, le week-end, le samedi matin, je descendais, j'allais chercher les croissants, j'ouvrais la boîte aux lettres, parce qu'il y avait toujours une carte, un truc que j'attendais. Alors que maintenant, c'est pas du tout pareil, c'est l'ordinateur ou le smartphone. Vous déjeunez le matin, qu'est-ce que vous faites? Vous tripotez votre iPhone, vous allez voir si vous avez reçu des mails, parce que les mails, c'est les annonces de coups qui ont été joués. Donc, vous dites, tiens, tel, il a joué tour à 3, tiens, je pense. Ah, je n'ai pas prévu celui-là. C'est plus le même rapport que quand vous montez dans l'ascenseur, vous avez vos cartes, vous regardez, tiens, celui-là, il a joué tel coup. Et puis après, le temps, c'est qu'il faut aller voir votre échiquier, reprendre donc les... Alors, quand c'était du temps des boîtes en plastique avec les pièces, vous avez les petites étiquettes, la carte à la main, vous regardez l'échiquier, hop, vous bougez. Une pièce qui a été jouée, et à ce moment-là, vous commencez à réfléchir, finalement. Là, c'est différent, en fait. Mais c'est différent, mais le résultat est le même, finalement, dans le fond. Je me rappelle, j'avais des enveloppes. Alors, il y avait des timbres à 5 centimes, des timbres à 10 centimes, des timbres à 20. Alors, je faisais la pointe parce qu'une carte pour le Mexique, ce n'était pas le même prix qu'une carte pour l'Allemagne ou pour l'Italie. L'Italie, c'était, je me rappelle, il y a beaucoup de joueurs qui vous le diront, c'était le pire en Europe, c'était l'Italie. Alors, c'était vraiment. La poste en Italie, c'était l'enfer. Très souvent, beaucoup de retard, enfin, des trucs de fou. Quoi.
Autant en France, c'était rapide, parce que la France, on écrivait le lundi, le mercredi, des fois, on avait la réponse, parce que des joueurs jouent très, très, très vite. Autant avec l'étranger, c'était variable, autant l'Allemagne. L'ancienne Allemagne de l'Ouest, c'était 2 jours. Hein. Donc, au bout de 2 jours, ils avaient mon courrier, et pareil de l'autre côté. Mais quand j'ai joué un Ukrainien, pour que la lettre arrive, quand elle arrivait, c'était 1 mois. Et lui habitait au fin fond de l'Ukraine, et ça a duré 3 ans et demi, et on a joué un peu plus de 30 coups.
Il écrit quand même que il ne voyait pas comment jouer, mais que bon, comme maintenant vous êtes le nouveau champion d'Europe, il peut être quand même fier.
Oui, parce que contre lui, c'est une ouverture. C'était une Est indienne où j'ai donné la dame. Où on joue dame échec et un sacrifice pour gagner 3 pièces contre la dame. Et à la sortie de ça, donc je trouvais que j'étais bien, mais finalement, il a trouvé des coups gênants. On n'a fait que nul, je crois. Mais j'ai ramé. Alors celle-là, ouais, ça c'est l'Ukrainien. Voilà, il a accès. On a joué.
Thank you very much for this interesting game.
Ouais, voilà. Ouais, donc, alors il me dit qu'il aurait pu jouer dame A5 ou dame C5 qui était intéressant. Dame B3 est un bon coup. Voilà, puis il me donne un autre résultat contre un autre adversaire. Là.
Très vite, je suis engagé dans les préliminaires d'une Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde numéro 2 à l'époque, qui se joue en 3 étapes. Alors, une étape, ça dure 4 ans, hein, attention. On parle de choses sérieuses. Donc, je me suis qualifié pour la 2e étape. Je me suis qualifié pour la 3e, donc encore 4 ans. Et j'ai joué la finale encore 4 ans, donc j'ai joué la coupe du monde numéro 2 en 12 ans. J'ai fini 4e. Et là, dedans, dans la finale, il y avait quand même des grosses pointures du jeu par correspondance à l'époque, quoi. Donc évidemment, la montée en puissance est forcément progressive, parce que c'est lié à la durée des tournois, quoi. Je ne sais pas ce que ça aurait donné à l'époque actuelle dans la cadence Internet, en quelque sorte. Je ne sais pas si... Donc j'ai eu le temps de progresser intellectuellement, parce que il y avait tout le temps, quoi. En 12 ans, si on n'a pas progressé, c'est dommage.
Et comment on célèbre une victoire? Parce que quand on est en tournoi, il y a une petite cérémonie, on récupère sa coupe et on fête ça un petit peu quand même.
En cas de victoire, c'est sûr, on se pompe la foule. Je le garde pour moi, je le dis même pas. Finalement. Je suis peut-être un peu plus gai que d'habitude. Par exemple, quand je mets le couvert sur la table, tout ça, je suis content. Et inversement, quand je perds, c'est sûr que je suis assez déprimé et ça se voit. Donc quelqu'un qui me connaît bien, il sait si j'ai gagné une partie ou si je l'ai perdue. Ça se sent. Les défaites sont assez dures parce que certainement parce que ça dure longtemps une partie. Donc quand vous la perdez, c'est assez dur à avaler parce que c'est des semaines et des semaines d'analyse et vous vous rendez compte que la position est devenue complètement indéfendable et c'est très dur quoi, pour ne pas revenir en arrière. Moi, je sais que souvent, quand je perds une partie, ça m'arrive de prendre des vacances. Parce qu'il y a des vacances, vous savez, vous avez droit, en général, ça tourne autour de, je crois que c'est 45 jours par an et par tournoi. Donc, quand je perds une partie, souvent, je prends une quinzaine, un truc comme ça. Je fais autre chose. Pas de jeu par correspondance. Quelques blitz sur le chess, par exemple, ou des trucs comme ça, ou des exercices. C'est plus ce qui est le plus important, curieusement. Pour moi, c'est presque plus important de commencer une partie que de la terminer. C'est-à-dire de recevoir la liste des joueurs que je vais rencontrer, de voir, par exemple, que j'ai les blancs contre un tel ou un tel, que j'ai les noirs contre un autre, d'aller découvrir dans les bases de données un petit peu les habitudes de mes adversaires, de faire l'inventaire des possibilités, quoi, au niveau dans l'ouverture. Tout ça, je pense que ça me motive beaucoup plus que la fin. À part, peut-être aussi, ce qu'il y a, c'est que dans une partie par correspondance, il y a un moment, alors justement, c'est ce qui est passionnant à vivre, il y a un moment où vous sentez le résultat. C'est-à-dire que vous sentez que vous allez gagner. Il y a des prémices comme ça, des petits trucs. Et puis après, à chaque coup, ça se creuse. Et c'est la caractéristique du jeu, hein. C'est-à-dire que, par correspondance, si vous avez un petit désavantage, en général, vous ne revenez jamais. Ça ne revient jamais. Et c'est ce moment qui est important à vivre.
Spécial. Chasse au loup avec quelque chose assez. Bon, nos types de cartes, ça vient de. C'est du Guatemala quand même. On correspond pas tous les jours avec le Guatemala. Alors ça c'est l'effet timbre, ça. Non.
Vous avez coupé dedans.
Voilà.
Eh
bien, ah oui, ah bah voilà, chercher un truc un peu plus étendu. Et eh ben voilà. Et alors lui, il parle français, alors c'est qui lui? Ah oui, c'est un russe. Et il parlait français, oui. Donc, veuillez agréer mes meilleures salutations à l'occasion du 1er mai. Faites du travail, excusez-moi pour le retard apporté à vous répondre. C'est que ces derniers 15 jours ont été très difficiles pour moi. Les détails, vous n'avez pas besoin. À l'occasion de la fête, je me permets de vous faire un petit cadeau qui vous fera peut-être du plaisir. C'est un feuillet, ah oui, où l'on voit l'autoportrait d'un des meilleurs peintres de chez nous. Constudiev. J'espère qu'un de ces jours vous aurez la suite série reproduisant ces tableaux. Je profite de l'occasion pour répéter mon dernier coup que je vous ai envoyé. Ah bah c'est très intéressant ces cartes-là. Parce que ça dit plusieurs choses. Donc ça dit que là, il écrit quand même quelque chose d'un peu plus long. Il parle d'un feuillet en fait qu'il m'a envoyé, donc de timbre. Et puis il dit à la fin qu'il répète son coup. Ça veut dire qu'il a pas reçu le mien. Parce qu'il y a des courriers qui se perdent, un truc dont je n'ai pas parlé. Et surtout avec la Russie, c'est dramatique parce que au lieu de faire 2 mois, des fois ça en fait 4. Hein. Alors, oui, mais enfin, ça pose un autre problème, les croyants qui se perdent. Premièrement, vous ne savez pas si c'est réellement perdu ou si c'est l'adversaire qui a évité de le recevoir. Deuxièmement, pour établir le contact, donc, ce qui est recommandé, c'est de répéter par lettre recommandée, justement. Mais c'est le seul moyen qu'on a de prouver qu'on a envoyé son coup. C'est la lettre recommandée. Donc déjà, ça augmente le budget. Mais j'ai gagné. Je veux dire que j'ai gagné les parties avec la lettre recommandée. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'en sortir. Et donc là, il n'a pas. Parce que les relations étaient bonnes, il ne devait pas avoir de doute sur moi. Donc il a simplement répété son coup, il n'a pas dû l'envoyer en lettre recommandée. Et puis il en a profité pour me souhaiter la fête du travail. Mais je ne me rappelle plus très bien, il me semble qu'il était d'origine française celui-là. Par contre, ça me fait penser une anecdote qui n'est pas très drôle. J'ai perdu contre ce joueur-là, en fait. Et pourquoi j'ai perdu? Parce que à l'époque, ma mère avait un cancer et puis elle était sur la fin, disons quoi. Donc j'étais quand même assez perturbé et je me rappelle avoir analysé un coup chez elle en fait, pendant qu'elle était couchée. J'étais là, bref. On analyse partout. Hein. Moi j'avais des échiquiers partout, dans la voiture, au boulot, partout. Dès qu'on a du temps, on analyse partout. Donc j'avais comme il fallait que j'aille souvent chez elle, j'avais un échiquier chez elle. Donc j'avais un peu de creux, j'analysais. Seulement j'avais pas la tête à ça. Donc résultat, j'ai joué un mauvais coup et j'ai perdu la partie. Ça fait partie des anecdotes de jeu, enfin des anecdotes de jeu postal, surtout de jeu de quand il n'y avait pas les ordinateurs pour rattraper. Il n'y avait pas de dire de vous. Donc si vous n'étiez pas. Dans le coup, bah, y avait rien pour vous rattraper en fait. Hein.
Est-ce que vous avez eu des correspondances qui ont été plus marquantes que d'autres?
Certainement, oui. Certainement. Justement, on échange à différents niveaux. Ça m'est arrivé par exemple avec un joueur finlandais, je me rappelle. Lui, c'était un passionné de cuisine. Alors, comme j'étais français, évidemment, la cuisine française, c'est un truc. Je pense dans le monde entier, les gens en parlent, même si, bon, il y a des cuisines qui sont aussi bonnes que la cuisine française, c'est sûr. Mais on parlait cuisine. Alors, du coup, je lui disais, voilà, hier, j'ai préparé, par exemple, un magret de canard avec. Je suis dans le Périgord actuellement, donc ça me vient tout de suite à l'idée. Et alors, on me disait, ouais, comment tu fais ça? Les pommes de terre, tu les fais avant, etc. On parlait comme ça, mais tout ça par écrit, vous voyez. Et puis, dans un coin, évidemment, il y avait toujours le coup qu'on envoyait. Mais on bavardait, c'était vraiment une occasion d'échanger. Et même, ça arrivait des fois que la partie. Était complètement terminé, mais on continuait quand même à échanger. Il aurait pu abandonner depuis longtemps, mais comme on avait encore des trucs à se dire, on continuait. Et ça m'a marqué vraiment. Des histoires comme ça, j'en ai pas mal. Hein. J'en ai beaucoup. Par contre, c'est vrai aussi qu'il y a d'autres joueurs, ça restait pratiquement bonjour, au revoir, amicalement, etc. Les formules. Standard qu'on emploie tout le temps, il n'y avait rien de plus. Il y a des gens, il n'y a que le jeu qui les intéresse, c'est vrai.
Et est-ce que vous avez déjà rencontré des joueurs par correspondance étrangers, mais physiquement?
Non, non. Alors ça peut se faire quand on va au congrès de l'ICCF, par exemple. Mais même physiquement, j'ai pas rencontré beaucoup de joueurs français. j'ai rencontré que ceux que je vois à l'Assemblée générale, c'est-à-dire pas beaucoup. C'est ça la particularité de cette forme de jeu, c'est que tout est à distance. On avait inventé le distanciel avant le Covid. Hein. Là.
Et est-ce qu'il y a des gens où vous vous êtes dit, ah mince, ça m'aurait peut-être plu de voir cette personne en vrai, à quoi elle ressemble
C'est-à-dire qu'on a tendance ce qu'on voit pas, on a tendance à l'imaginer. Et ça n'a peut-être aucun rapport avec la réalité, en fait. Hein. On a tendance à créer la tête de son adversaire, en quelque sorte, en fonction du peu d'informations qu'on a. Quand on démarre une partie, les informations qu'on échange, c'est où on vit, si on est marié, si on a des enfants, la profession. Ça vous paraît pas évident, ça. De correspondre avec quelqu'un dont vous pouvez pas imaginer visuellement, quoi.
C'est juste qu'en fait, je me dis, comme les parties par correspondance postale, en tout cas, ça pouvait durer jusqu'à 4-5 ans, en fait, on est en contact avec une personne qui peut être à l'autre bout du monde pendant 4-5 ans, enfin 4 ans. Enfin, c'est énorme, en fait, dans
une
vie.
Oui, c'est pas un contact permanent.
Oui, mais c'est un contact prolongé qui est régulier.
Oui, c'est un contact régulier, mais c'est ça. Mais par exemple, un aller-retour avec la Russie qui pourrait prendre 2 mois ou plus, pendant les 2 mois, vous oubliez un peu le joueur. Et puis, vous repensez à lui dès que sa carte arrive.
Ça dure 4 ans.
Et ça dure 4 ans, par contre, effectivement. Et quand la partie se termine, on se dit, j'en ai fini avec celui-là, quoi, en fait. Il arrive qu'on rejoue avec le même joueur, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois.
Ah, tout le temps. À ça, j'y pense tout le temps. Et je pense que ça a été comme ça depuis que j'ai une vingtaine d'années, finalement. Disons que moi, j'imagine pas tellement de vivre différemment, quoi, puisque j'ai toujours vécu avec ça. C'est plus qu'une passion, c'est une habitude, c'est comment dire, un mode de vie presque, si je peux dire. Hein, c'est un mode de vie, je vais voir des gens, de la famille. Dès qu'il y a un petit creux dans la conversation, c'est sûr que ça me revient en tête. J'ai telle ou telle partie. Je ne sais pas si j'ai choisi la bonne ouverture ou si. On se demande si telle ou telle variante pourrait convenir au jeu par correspondance, si c'est pas trop risqué, etc. On pense tout le temps à ça, finalement.
Je passais 3 heures minimum tous les soirs à jouer. Jusqu'à temps que je sois fatigué, en fait. Jusqu'à la fin, jusqu'au championnat du monde, j'ai passé au moins 3 heures tous les jours. Vacances compris, tout. Alors des fois, c'était le matin, je commençais je bossais de midi à 20h. Le matin, à 8h, les enfants allaient à l'école et je jouais de 8 à 11 ou tout ça. Mais je passais au moins 3 heures par jour sur une position. C'est chronophage et fatigant, très fatigant. Même si c'est pas physique du tout, hein, c'est jouer aux échecs, il faut du punch pour investir du temps tous les jours. C'est pas un effort physique, je sais pas lancer le marteau, je sais pas combien de mètres, mais tous les jours, il faut y être et il faut pas se dire « Bon, cette semaine, on verra bien, hein, parce que les lettres, elles s'entassent sinon. »
C'est jamais vraiment anodin quand on joue beaucoup et ça prend beaucoup de temps et ça peut avoir des impacts sur sa vie personnelle, sociale. Et c'est ça aussi que j'essaye de un peu de mesurer, quoi.
Ah ben, c'est pas anodin du tout. C'est pas le fait de jouer aux échecs qui n'est pas anodin, c'est le phénomène compétition, en fait. À partir du moment où vous êtes en compétition, que ce soit aux échecs ou ailleurs, vous êtes... est un petit peu, des fois un petit peu ailleurs quand même. Vous avez une volonté personnelle qui n'a rien à voir avec l'ensemble familial, puis la préoccupation de réussir aussi. Donc qui a forcément une influence, c'est sûr.
Et comment vous pourriez qualifier votre relation au jeu d'échecs ?
C'est passionnel en fait. Vous considérez que c'est passionnel ?
C'est une passion pour vous.
Disons que ça l'a été. Maintenant, les ordinateurs ont rendu les choses, ont dépassionné les choses, en fait. Ont gâché le plaisir, en fait.
Je ne saurais pas dire ce qui m'intéresse, c'est des échecs. Je dirais, c'est un peu comme Obélix, hein. Je suis tombé dedans, pas tout à fait quand j'étais petit, mais comme j'ai dit, quand j'avais 12 ans, cette partie, entre cette rencontre entre Fischer et Spassky, j'ai découvert les échecs et voilà. Pourquoi est-ce qu'on aime la musique? Pourquoi est-ce qu'on aime tel auteur? C'est très irrationnel. Hein. Si vous posez la question à la femme, vous direz c'est complètement irrationnel. Mais voilà, c'est comme ça.
On aime chercher, étudier, parce que c'est créatif en fait. Pour moi, c'est ça qui était un facteur décisif. Et puis on aime la compétition. On ne peut pas jouer aux échecs si on n'aime pas la compétition. Enfin, on peut jouer aux échecs. On ne peut pas faire ce que j'ai fait si on n'aime pas la compétition. Mais pourquoi ça s'est cristallisé sur le jeu d'échecs? Parce que... Je sais pas, c'est un truc qui a flashé à un moment donné. À la limite, quand on rencontre quelqu'un, on dit pourquoi celle-là et pas une autre. Bon, c'est un petit peu la même chose.
Je suis sûre que vous avez des éléments de réponse de qu'est-ce qui vous plaît dans le jeu, qu'est-ce que ça... Parce que ça fait 40 ans que vous y jouez. Donc qu'est-ce qui...
Presque 50. Non, comme je dis, pour moi, c'est... Je j'ai pas d'explication. C'est pas rationnel. Il y a quelque chose dans ce jeu qui est à la fois il est simple, mais il est éternel. Il est toujours différent. Voilà, et Sandars disait, il se passe plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. C'est vrai. C'est ça, il n'y a jamais deux parties identiques, c'est toujours différent, il y a toujours quelque chose qu'on découvre, on en apprend toujours, on n'est jamais au bout, et surtout, ce qui a l'avantage peut-être sur d'autres choses, ou sur d'autres sports, ou sur d'autres passions, c'est que quand on est un peu amateur et tout, la position que l'on analyse, et surtout par correspondance, on la garde dans la tête. Donc on l'emporte avec soi tout le temps. Et où qu'on soit, en voiture, en métro, n'importe où, parfois en dormant, c'est là où on peut trouver des bons coups, parfois des mauvais aussi, il faut faire attention, mais ça m'est arrivé, ça arrivait à d'autres, hein. Le matin en se réveillant, en se disant « bah oui, c'est ça ». Et je pense que inconsciemment, le cerveau continue à réfléchir, sur la position, si on a cette image en tête de la position et tout, on continue à y réfléchir et c'est voilà, donc c'est à la fois simple, ça ne demande rien et c'est infini.
C'est un virus. Apparemment, il a bien pris, il n'y a pas tellement de vaccins. Non, et c'est une image intéressante. Beaucoup de joueurs disent j'ai le virus. Je ne pourrais pas m'en débarrasser, en fait. Quoi. Voilà. C'est ça. Vous pouvez vous poser la même question pour vous-même. Pourquoi vous êtes focalisé là-dessus, même en étant plus jeune? C'est peut-être parce que... Je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons, mais... C'est probablement pour les mêmes raisons. Pourquoi plus sur ce jeu-là que sur autre chose, sur un autre jeu?
C'était Dear Chess Friend, un documentaire de Ada Carcero avec Eric, Michel, Patrick, Pierre et le soutien du collectif Transmission.